Cynthia Jean, élue maire de Dumbéa, Nina Julier, élue maire du Mont-d'Or, 22 conseils municipaux doivent désigner leur maire aujourd'hui. Sans visibilité, pas de reprise, c'est le cri d'alarme lancé par le monde économique au travers d'une grande enquête transmise aux parlementaires en métropole. 80 cas de dengue déclarés la semaine dernière, la Calédonie connaît sa première épidémie depuis 2019. Donald Trump repousse son ultimatum aux Iraniens jusqu'au 6 avril pour accepter un accord de paix. Dans le cas contraire, il annonce lancer le coup fatal. Victoire pour les partis européens de droite, le Parlement européen entérine le plan de durcissement de la politique migratoire de l'Union. Et puis en football, rendez-vous à 14h pour la sélection calédonienne. Elle affronte la Jamaïque, sorte de demi-finale en vue de la qualification au Mondial. Quant à la France, elle a battu le Brésil 2-1 ce matin en match amical. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Transparence comme tous les vendredis. Ce sera évidemment à midi. Elisabeth Noir, vous recevrez aujourd'hui la présidente de l'Assemblée de la Province Sud et chef de file des loyalistes, Sonia Baquès.
Vous avez tout dit, Jean-François, Sonia Baquès qui sera notre invitée dans le magazine Transparence. Et nous reviendrons avec elle sur le bilan, bien sûr, des élections municipales, mais aussi sur le cheminement de la réforme constitutionnelle et de l'accord de Bougival. Beaucoup de sujets d'actualité donc à voir avec elle. On se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de Sonia Baquès. Ce sera juste après votre journal, Jean-François.
Des thèmes que vous développerez aussi dans le club politique Radio Rythme Bleu à 16h45.
Avec un sommaire dense, encore, nous reviendrons bien sûr sur le bilan des élections municipales. Qui a gagné? Quelles conséquences chez les indépendantistes et chez les partisans de la France? Et puis nous parlerons aussi du rejet par la Commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle et de ses conséquences sur la suite du processus. Nous évoquerons également la disparition de Lionel Jospin. Rendez-vous à 16h45 pour le club politique de Radio Rythme Bleu.
22 communes dont les conseils municipaux ont été renouvelés dimanche dernier doivent donc élire leur maire aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux ont déjà été désignés ce matin. Et nous allons faire un tour des communes dans lesquelles le maire a été élu. C'est le cas à Dumbéa, Charlotte Coulson, où Cynthia Jean est le nouveau maire de la commune. Elle a été élue ce matin.
Oui, elle était la seule candidate ce matin au poste de maire. Cynthia Jean a été élue avec 31 voix, 8 votes étaient blancs au moment du dépouillement. Elle devient donc la nouvelle maire de Dumbéa. C'est une vraie progression pour celle qui a fait son apparition au conseil municipal de Dumbéa en 2020. À l'époque, elle se soumet pour la première fois au vote des Dumbéens et obtient 2 sièges au sein du conseil. Pendant plus de 5 ans, elle siège en tant qu'élue Génération Dumbéa aux côtés de Loïc Bassé-Crenier. Mais en août 2025, les bandes de l'opposition se rapprochent. 9 élus, dont Cynthia Jean, Gilles Briel ou encore Xavier Rossard, forment un nouveau groupe, les loyalistes, le Rassemblement Dumbéa. Il s'agit en fait d'une déclinaison au niveau local de l'union entre les loyalistes. Cette union qui clame un positionnement clair d'une Calédonie dans la France semble convaincre les Dumbéens, puisque le 22 mars, la liste Unie pour l'avenir de Cynthia Jean arrive largement en tête du second tour des élections municipales. Avec 45,33% des suffrages, elle dépasse la liste du maire sortant Yoann Lecourieux, qui lui obtient 19,85% des voix. Unir pour l'avenir occupe donc 29 sièges sur 39 au sein du conseil. La liste de Yoann Lecourieux a obtenu 4 sièges, celle de Rachel Auché 3 sièges, la liste de Muriel Malfa-Paoga occupe 2 sièges et le dernier siège revient à Vaimoamou Liava. Tous ont participé à l'élection du maire et de ses adjoints ce matin. Une élection qui s'est aussi faite en présence de la présidente de la province sud, Sonia Baquès. Après les applaudissements de ses colistiers et de ses opposants, Cynthia Jean a remercié l'équipe sortante de Yoann Lecourieux pour son travail dans des périodes, je cite, « pas toujours faciles ». La nouvelle maire de Dumbéa a également remercié les Dumbéens. « Nous croyons au vivre ensemble dans un environnement sain. Nous travaillerons à la reconstruction de la ville et à son attractivité économique », a-t-elle dit. Après ce discours, les adjoints ont aussi été élus. Il y en aura 9 aux côtés de Cynthia Jean. Le premier est Loïc Bassé-Crenier, le deuxième Xavier Rossard. À la fin du premier conseil municipal de cette nouvelle mandature, toutes les listes d'opposition ont pris la parole. On retiendra les paroles de Yoann Lecourieux, avec qui les échanges ont parfois été tendus au cours des précédents conseils municipaux. Fidèles à notre état d'esprit, nous adopterons une attitude digne, respectueuse et responsable, une opposition constructive, mais aussi exigeante, a-t-il dit. Deux autres élus d'opposition, Vaimoamou Liava et Muriel Malfa-Paoga, ont également félicité Cynthia Jean pour sa victoire et souligné qu'elle devient ainsi la première femme maire de Dumbéa. Les 39 élus seront réunis la prochaine fois le jeudi 16 avril. En direct de la mairie de Dumbéa, Charlotte Coulson, Radio Rythme Bleu.
Et direction maintenant le Mont-d'Or, où un nouveau maire a également été élu ce matin. Il s'agit, sans surprise, Nicolas Legrand de Dina Julier.
Oui, c'est dans une chaleur étouffante que le conseil municipal s'est réuni. Il faut dire que de nombreux Mondoriens se sont réunis dans la salle du conseil municipal de Boulary pour assister à l'élection de leur maire. Trois candidatures se sont présentées ce matin. Il s'agit des trois têtes de liste présentes au scrutin de dimanche dernier. Nina Julier, Elisabeth Rivière et Tania Waka. Le suspense était limité puisque la liste Il est temps de Nina Julier avait obtenu 26 sièges avec ses 47,46% des suffrages. Tous ensemble pour le Mont d'Or d'Elisabeth Rivière possède 6 sièges. Le Mont d'Or, notre ville pour une nation souveraine de Tania Waka dispose de 3 sièges. Les votes ont donc confirmé la logique des urnes. Nina Julier a obtenu les 26 voix de sa liste et a été élue maire. Elisabeth Rivière a obtenu 6 voix et les 3 voix indépendantistes se sont tournées vers la candidature de Tania Waka. Après avoir salué ses concurrentes et ses colistiers, Nina Julier a donc été installée dans le fauteuil de maire après avoir revêtu son écharpe tricolore avec le bleu au col comme le veut la tradition. Les conseillers ont ensuite procédé au vote du nombre d'adjoints qui a été fixé à 10. Une seule liste a été déposée, celle portée par Il est temps de Nina Julier qui a obtenu 27 voix, soit une de plus que le nombre de conseillers de la majorité. 8 bulletins sont revenus blancs. Le premier adjoint est Frédéric Parent. Nina Julier a ensuite prononcé un discours et elle a affirmé qu'aujourd'hui, elle n'avait plus à convaincre, mais à répondre aux besoins. Nous avons la volonté de changer le quotidien. Le défi est grand. Nous allons agir lors des 100 premiers jours en mettant en place 12 actions concrètes à lancer la nouvelle maire du Mont d'Or. Par exemple, le recrutement de 5 policiers municipaux ou encore la mise en place d'une commission de suivi des mineurs délinquants. Ou enfin l'ouverture dès la semaine prochaine d'une permanence hebdomadaire pour que les administrés puissent consulter les élus sans rendez-vous. Nina Julier a rappelé ses 3 priorités pour cette mandature, la sécurité, l'attractivité économique et enfin le rayonnement de la commune. Nina Julier s'est ensuite adressée aux agents qu'elle décrit comme attachés à la commune, même si elle reconnaît que le changement peut être une source d'inquiétude pour certains. Elle s'est ensuite adressée aux élus du conseil et notamment à l'opposition. Elle rappelle que les Mondoriens ont fait un choix démocratique, mais elle affirme qu'elle sera une maire à l'écoute et qu'elle attend les propositions de l'opposition tant que bien ça rentre en compte dans son programme et que ça peut s'adapter à son programme. La séance s'est terminée par de nombreuses photos avec les adjoints et le maire Nina Julier et un pot près de la case des communautés. Au Mont d'Or, Nicolas Legrand, RRB.
Voilà donc pour l'élection des nouveaux maires de Dumbéa et du Mont d'Or ce matin. D'autres communes, Lionel Sabot, ont également réuni leurs conseils municipaux pour procéder au vote ce matin.
Alors commençons par la province sud à Bouray. Patrick Roblin a retrouvé son fauteuil de maire et entame un deuxième mandat consécutif. Ce matin, il a obtenu 21 voix. Il y a eu 6 voix pour Livaïrois qui tirait la liste Bouray demain et 2 bulletins blancs. Atio, c'est Teva Pouaillot, à tête de liste Notre Jeunesse au cœur du changement qui a été élu maire. Il dispose de 17 sièges sur les 23 dans le nouveau conseil municipal. En province nord, cette fois-ci, à Kouaoua, c'est Franck Dioupoué qui a été élu maire ce matin. 11 voix se sont portées sur son nom, 3 voix se sont portées sur le nom de Jacqueline Couillemont, qui avait également fait acte de candidature. À Calagomène, sans surprise, Alain Levent, qui menait la liste Entente communale, a été élu pour la 6e fois maire de la commune. Il avait effectué 4 mandats consécutifs entre 1983 et 2014. Il avait été battu en 2014 avant de retrouver son fauteuil de maire en 2020. Ce matin, Alain Levent a obtenu 15 voix. Il y a eu 4 bulletins blancs. À Pony-Riouin, c'est Océa Natchoué qui a été élu maire de la commune. Enfin, aux îles Loyauté, Maurice Tilewa a été réélu maire d'Ouvéa, élu au premier tour avec 17 voix. Jean-Joël Illy a obtenu 4 voix et Moïse Baouma a lui obtenu 2 voix. Maurice Tilewa qui entame son 3e mandat consécutif, un conseil municipal qui est composé de 23 sièges. Enfin, à Marais, c'est Robert Kawedron qui a été élu. Il a obtenu 23 voix contre 4 à Marilyn Sinewami, la maire sortante. Il y a eu également un bulletin blanc et un bulletin nul.
Voilà donc pour les conseils municipaux réunis ce matin. D'autres vont se réunir cet après-midi. À 14h, ce sera Païta. À La Foy, le conseil municipal est prévu à 13h30. En province nord, le conseil municipal de Koumac se réunira à 13h, comme celui de Ouégoua. Les conseils municipaux de Koné et Poya sont convoqués à 14h, celui de Voix à 15h. À Poum et Pointe-Boute, c'est à 16h que se réuniront les conseils municipaux. Ce sont donc 22 maires qui seront élus dès aujourd'hui. Il restera encore 3 maires à élire. Le conseil municipal de Pueblo se tiendra demain à 9h, celui de Boulou-Paris à 10h. À Nouméa, enfin, c'est dimanche à 16h qu'aura lieu l'installation du nouveau conseil municipal et la réélection de Sonia Lagarde. Avant une première pause dans ce journal, notez en bref que face au risque d'organisation d'élections provinciales avec un corps électoral gelé, l'association Un cœur, une voix appelle à un rassemblement pacifique mardi prochain devant le Haut Commissariat à partir de 11h45. L'association affirme que l'objectif est clair, défendre le vivre ensemble, la démocratie et refuser l'injustice institutionnalisée. La situation n'est plus tolérable, écrit Un cœur, une voix. Le maintien du gel du corps électoral est une fracture démocratique majeure qui met en danger la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Un rassemblement décrit comme statique, pacifique et digne, mais aussi ferme, visible et déterminé. Il est 11h41, on va marquer la première pause dans ce journal. Nous prendrons ensuite des nouvelles du conseil d'administration d'ERCAL, réuni depuis ce matin 9h.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Projet d'aménagement, d'embellissement ou de rénovation? Envie de redécorer votre intérieur ou de sublimer votre extérieur? Ne manquez pas le salon Habitat et Déco du 27 au 29 mars dans un tout nouveau décor à Coekara. Trouvez l'inspiration pour vos projets auprès de 100 professionnels et participez à notre jeu. Rendez-vous à Coekara pour le salon Habitat et Déco. Toutes les solutions pour un lieu de vie qui vous ressemble. Entrée gratuite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité aérienne et l'heure est aux décisions cruciales chez Air Calédonie. La compagnie domestique est à l'arrêt depuis le 2 mars dernier, 26 jours déjà que les aérodromes des îles sont bloqués par des collectifs d'usagers. C'est une situation examinée ce matin lors d'un conseil d'administration de la compagnie aérienne. Léo Fichou, vous êtes en direct du siège d'Aircal. Est-ce que ce conseil d'administration est terminé? Est-ce que des décisions ont été prises?
Oui, Jean-François, bonjour. Une réunion qui s'est terminée peu avant 11h30 à la sortie. Les membres du conseil et les élus ont tous été rassurants, notamment Daniel Ombouy, le directeur général. Ils indiquent que, je cite, « la réunion s'est bien passée », tout en soulignant qu'il reste encore du travail. Une communication interne au personnel devrait intervenir en début d'après-midi, avant toute prise de parole publique. Petit rappel, au cœur des échanges ce matin, l'avenir même d'Aircal, fragilisé, vous le savez, par des difficultés financières, une baisse du trafic, et puis vous le disiez, bien évidemment, ces blocages dans les îles, suite au transfert des activités de Magenta vers Tontouta. Les aérodromes des îles sont bloqués depuis le 2 mars dernier. Donc, une question était et reste, malgré tout, sur toutes les lèvres. La compagnie va-t-elle pouvoir continuer à voler ou devra-t-elle cesser ses activités? Pour l'heure, je le disais, aucune décision officielle n'a été annoncée. L'issue de ce conseil d'administration d'Air Calédonie est très attendue, tant par les salariés que par les usagers. On attend désormais la communication de la compagnie qui est prévue, je le disais, dans l'après-midi, depuis le siège d'Air Calédonie, Léo Fichou, RRB.
Sans visibilité, pas de reprise, c'est le cri d'alarme lancé par le monde économique. 90% des entreprises considèrent qu'aucune relance durable n'est possible sans cadre institutionnel stabilisé. C'est ce qui ressort d'une grande enquête lancée par les chambres consulaires, les organisations patronales et syndicales et les syndicats professionnels auprès d'un large panel de chefs d'entreprise. Ce cri d'alarme s'appuie sur une situation toujours préoccupante, alors que près d'une entreprise sur deux déclare disposer de moins de 3 mois de visibilité et de trésorerie, et une sur trois que sa priorité est désormais la survie. Les signes que l'économie est au plus mal sont nombreux, nous a dit ce matin Stéphanie Otto, le vice-président de la CCI, venu nous parler de cette enquête.
Aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise qui ont un certain âge, qui pensaient revendre leur entreprise, qui s'aperçoivent que dans le contexte actuel, elle ne vaut plus rien, donc ils la ferment. Il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin de baisser leurs charges, de faire la boule le temps que ça passe. On a déjà perdu 15 000 emplois. 15 000 emplois, c'est une tragédie sociale. Et là, on a peur d'en perdre encore 4-5 000 supplémentaires si un accord institutionnel n'est pas trouvé. On insiste sur l'accord institutionnel, mais une fois de plus, c'est un triptyque. Ça n'est pas que l'accord institutionnel.
Ce triptyque, c'est donc accord institutionnel, mais aussi un accord économique et une relance du secteur privé.
Ça peut paraître paradoxal qu'on ait cette conversation à la semaine où le plan de relance économique de Madame Durieux et de l'État et du Premier ministre, que nous remercions pour leur engagement, c'est pas du tout une critique. C'est 240 milliards injectés dans l'économie sur les 5 prochaines années. On pourrait se dire alléluia. Mais non, ce qui est paradoxal, c'est que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin de confiance, on a besoin de visibilité. On a l'image du pneu crevé dans lequel on met de l'air. Eh ben, il est crevé et il va pas se gonfler. Il y a un triptyque qui est nécessaire, absolument nécessaire, et c'est ce qui ressort de ce sondage. Pour que ça redémarre, il y a un accord institutionnel qui va nous donner la confiance et la visibilité. Il y a un accord économique pour lequel le plan de relance est une bonne fondation. Et puis après, il y a le secteur privé qui va s'y coller, qui va faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire produire de la richesse et de la valeur ajoutée. Il faut un accord qui redonne confiance à la fois aux entreprises et aux consommateurs sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Stéphane Yoto, le vice-président de la CCI, venu donc nous parler de cette enquête rendue publique en plein débat parlementaire sur l'avenir de l'accord de Bougival. Notez que cette enquête a été transmise à l'ensemble des parlementaires métropolitains, députés et sénateurs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à la question d'hier. 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le pacte de refondation est à la hauteur des besoins de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 35% à être d'un avis contraire. Notre question du jour, le rejet par la commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle sur la Calédonie, vous inquiète-t-il pour la suite du processus de Bougival ? Si cela vous inquiète, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Le gouvernement appelle la population à la vigilance. La Nouvelle-Calédonie est actuellement touchée par une épidémie de dengue. 80 cas ont été recensés la semaine dernière et le nombre de communes touchées continue d'augmenter. C'est une première depuis 2019, année du lancement du programme Volbakia qui a considérablement réduit le nombre de cas, surtout dans le Grand Nouméa. C'est ce que nous a dit Florie Chélan. Elle est responsable du bureau santé-environnement à la direction des affaires sanitaires et sociales.
Depuis 2019, plus d'épidémies sur le territoire. On a l'effet protecteur du World Mosquito Programme qu'on a déployé dans le Grand Nouméa. Les communes qui étaient le plus touchées auparavant par la dengue étaient ces communes-là. Donc elles sont vraiment protégées par ce programme puisque là, la circulation reste faible dans ces communes. Mais les autres communes du territoire n'ont pas pu bénéficier de ce programme. Et donc, les moustiques sont toujours capables de transmettre la dengue. Et donc, dès qu'il y a quelques personnes qui reviennent de voyage avec le virus, dans ces communes-là, il peut y avoir une transmission beaucoup plus active que dans le Grand Nouméa. En fait, il y a beaucoup d'épidémies de dengue en dehors de la Nouvelle-Calédonie, donc dans la région Asie, dans la région Pacifique. C'est souvent des retours de voyage, des voyageurs qui ramènent le virus sur le territoire et puis ça se propage ici sur le caillou.
L'ADAS rappelle donc des gestes simples mais efficaces pour lutter contre la propagation de la dengue, supprimer les eaux stagnantes autour de chez soi, se protéger des piqûres de moustiques et bien sûr en cas de fièvre, de forte fatigue ou de douleur dans les articulations, de consulter un médecin le plus vite possible. Une nouvelle séance de travail dans l'hémicycle du Congrès, boulevard Vauban. Pas d'élus présents ce matin, mais 24 personnes tirées au sort qui composent l'Assemblée citoyenne du Congrès. 24 Calédoniens qui vont travailler sur la thématique de la transparence de la décision publique et de la confiance envers les institutions. Velma Falaéo est la présidente du Congrès.
On voit bien qu'il y a une grande défiance aujourd'hui et qu'il faut vraiment améliorer en fait le rapport des institutions, des élus avec les habitants. Et j'espère qu'à travers le travail qui sera fait aujourd'hui, de vraies propositions seront faites. Je me suis engagée en tout cas que ça ne reste pas qu'un simple avis. L'idée déjà, ce sera de rendre public ces travaux, d'expliquer pourquoi on a retenu telle chose et moins d'autres choses. Mais après, l'idée aussi, c'est de informer les élus sur le travail qui a été fait et ensuite travailler plus en profondeur avec les services juridiques notamment pour concrétiser ces propositions en texte législatif par exemple.
Les travaux de cette assemblée citoyenne qui a donc été officiellement installée ce matin vont se dérouler sur plusieurs sessions, aujourd'hui et demain pour la première, les 24 et 25 avril pour la seconde. La messe chrismale a été célébrée hier par Mgr Sione Poé, archevêque de Nouméa. La cathédrale Saint-Joseph de Nouméa était comble hier soir. Les fidèles, mais aussi les diacres, les prêtres et les évêques, Mgr Guilain de Razillé et Mgr Calvé, sont venus pour participer à cette célébration au cours de laquelle sont bénies les huiles qui serviront pour les sacrements. Écoutez Mgr Sione Poé.
C'est toujours un temps d'unité. Bon, la messe chrismale, comme je l'avais dit au début, que c'est le fait qu'il y a l'ensemble, toute la population, les fidèles du diocèse autour de son évêque, et puis où les prêtres vont avoir le nouvel, leur diacre, leur nouvel, leur engagement sacerdotal. Donc c'est toujours un moment important d'unité qui marque l'unité de l'église locale. C'est la bénédiction des Saintes Huiles Et puis la consécration du Saint-Crème qui va se lumière justement pour la pastorale, pour la continuité de l'œuvre de salut du Christ dans son Église par le ministère des ministres ordonnés.
Cette messe chrismale a été célébrée à la veille du Conseil pastoral diocésain qui se réunit deux fois par an à l'archevêché pour que les prêtres et les diacres puissent y assister. Notez que dimanche, ce sera une nouvelle fête, la fête des Rameaux, qui marquera l'entrée dans la Semaine Sainte pour les chrétiens. Semaine Sainte qui conduira jusqu'à la fête de Pâques, célébrée le week-end prochain. Avant de s'intéresser à l'actualité en métropole et dans le monde, dans un instant, notez que Kowekara accueille depuis 9h ce matin le salon Habitat Déco, organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. 100 professionnels seront sur place tout le week-end et les visiteurs pourront échanger sur leurs projets et comparer les offres. Ce salon Habitat Déco est ouvert aujourd'hui et demain de 9h à 17h30 et dimanche de 9h à 16h. C'est donc à Kowekara. Il est 11h51. Dans un instant, ce sera une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 28 et 29 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour tous à poney. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.crunk.nc ou les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du poney.
Chérie, vérifions si tu peux fêter Pâques au centre commercial Hyper Upaïta.
Vas-y.
Samedi 4 avril de 15h à 17h, il sera possible de participer à...
des ateliers créatifs.
Et de 17h à 18h, ce sera...
la grande chasse aux œufs.
Et le lundi 6 avril, il y aura une course à l'œuf de...
10h à 11h.
Et en plus, sur Facebook,
il y a un jeu de Pâques pour gagner des paniers garnis d'œufs en chocolat.
Et tout ça, c'est...
gratuit !
C'est trop fort ! Rendez-vous le samedi 4 et le lundi 6 avril au centre commercial Hyper Upaïta pour fêter Pâques. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Un événement en partenariat avec votre magasin King Jouet.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité dans le monde avec Jean-François Bodin.
Et Donald Trump donne un délai supplémentaire au régime iranien. Il repousse son ultimatum au 6 avril prochain. Les États-Unis ont bien transmis un plan de paix via le gouvernement pakistanais qui joue les médiateurs, mais il a été rejeté par Téhéran au motif qu'il ne servirait que les intérêts américains et israéliens. Donald Trump attend donc quelques jours encore avant, dit-il, de lancer le coup fatal. Mais selon lui, les Iraniens n'ont pas d'autre choix que celui de la négociation.
Ils nous supplient de conclure un accord, pas moi. Le régime iranien reconnaît maintenant avoir subi une défaite décisive. Ils disent aux gens que c'est un désastre. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous parlent. Sinon, ils ne le feraient pas. Mais ils nous parlent car ils ont un désastre dans les mains. Ils sont battus. Ils ne peuvent pas revenir.
Notez que le G7 va se réunir demain en France. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio sera présent. L'administration américaine entretient des relations tendues avec les pays européens et l'OTAN qui ne se sont pas assez engagés, selon elle, dans des opérations militaires pour libérer le détroit d'Ormuz. En métropole, les obsèques de Lionel Jospin ont été célébrées la nuit dernière pour nous et l'ancien Premier ministre repose désormais au cimetière du Montparnasse. Auparavant, un hommage national présidé par Emmanuel Macron lui a été rendu. C'est une agression qui interroge, notamment pour connaître les motivations des agresseurs. À La Roche-sur-Yon, un groupe d'étudiants de l'Institut catholique d'enseignement supérieur a été prise à partie par plusieurs autres jeunes. Une étudiante a été légèrement blessée par un tir d'airsoft. Le récit de Sandrine Prioul pour Europe 1.
De Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, à l'eurodéputé Reconquête.
On va retrouver dans un instant le récit de Sandrine Prioul pour Europe 1.
Il est 22h30 hier devant l'université ISS de La Roche-sur-Yon, un établissement privé d'enseignement catholique réputé dans la région. À la suite d'une représentation de théâtre, des étudiantes massées sur le trottoir voient débouler une voiture. Trois personnes à bord, énervées, vociférant, allant jusqu'à proférer « Allahu Akbar » et même sortir un pistolet à billes airsoft et tirer en direction du groupe. Une bille en plastique ira même toucher une de ses étudiantes à la poitrine. Quelques minutes plus tard, rebelote, deux des étudiants qui rentraient chez elle recroisent les énergumènes qui tirent au airsoft et leur jettent une bouteille d'eau. Philippe-Henri Forget, l'un des directeurs de l'établissement visé, a envoyé ce matin un courrier à ses 2200 étudiants pour rassurer sur l'état des étudiants ciblée. Cet incident est violent, dit-il, mais ça ressemble à une provocation gratuite envers un établissement estampillé catho et bourgeois.
On trouve ça triste. À part ça, on ne va pas se laisser interpeller par ces provocations et cette violence parce qu'on a tellement d'autres plus belles choses à faire à l'ISS puisque c'est un établissement qui est en plein développement. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que nos étudiants continuent à vivre sereinement. C'est ce qu'il faut pour faire des études supérieures.
Ce soir, les trois auteurs ont été interpellés. Ils semblent n'avoir que peu de motivation politique ou religieuse. Meuse pour expliquer leur geste.
Une victoire pour les groupes parlementaires européens de droite. Il y a un an, la Commission européenne rendait public son règlement Retour, destiné à durcir la politique migratoire des 27 pays de l'Union. Le texte prévoit notamment d'autoriser la création de centres de secours, de centres de retour, pardon, en dehors de l'Union européenne. Le Parlement a donné son feu vert à ce texte la nuit dernière pour nous, à la grande satisfaction des groupes de droite. Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
De Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, à l'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo, tous saluent une victoire. Marion Maréchal va jusqu'à proclamer une étape historique de la coalition des droites. Même discours du côté du patron de la délégation française du PPE, François-Xavier Bellamy, en charge du dossier.
Nous avons trouvé une majorité pour renverser la situation actuelle d'impuissance de l'Europe face à l'immigration illégale. Le droit européen va rendre à nos États le pouvoir d'agir pour imposer que personne ne puisse rester illégalement en Europe.
Parmi les mesures phares du texte, le report du délai de rétention à 24 mois au lieu de 90 jours ou plus pour les personnes dangereuses, la création de centres pour migrants dans des pays partenaires hors de l'Union européenne, ou encore la possibilité d'interdire de manière prolongée l'accès à un territoire et de confisquer des papiers d'identité. Des mesures de dissuasion que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, pourrait choisir de mettre en place dès l'adoption définitive du texte, après son passage devant le Conseil européen.
11h56, dans un instant, nous allons conclure ce journal avec l'actualité sportive avant de retrouver le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le Salon Toyota 2026, du 27 au 29 mars, à la Maison des Artisans. Venez découvrir la gamme Toyota et le tout nouveau Toyota RAV4. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Alors rendez-vous du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Normand Torsconé. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Et le sport d'abord avec du football. Une journée historique pour le football calédonien à 14h. C'est dans maintenant juste un peu plus de 2h. La sélection de Nouvelle-Calédonie va disputer les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde, Lionel.
Oui, les joueurs de Yon Sidader seront opposés à la Jamaïque pour une place en finale de ces barrages. S'ils s'imposent, les Kagou affronteront la République démocratique du Congo. Le vainqueur décrochera son billet pour la prochaine Coupe du Monde prévue en juin et juillet prochain. Steve Laigle, nouveau président de la Fédération calédonienne de football, n'a pas fait le déplacement au Mexique où va se jouer ce match, mais il est forcément de tout cœur avec ses joueurs et sera fier d'eux, quoi qu'il arrive.
Nos jeunes vont rentrer dans l'histoire et vont écrire une nouvelle page de l'histoire du football calédonien. Donc une immense fierté, et de ce que je vois dans les médias, cette fierté est partagée par toute la population au pays. Donc, c'est un grand moment pour eux. Il va falloir qu'ils soient solidaires, qu'ils soient une vraie famille sur le terrain, et il faut qu'ils le vivent à fond pour sortir de ce terrain sans aucun regret. Je pense qu'ils sont prêts. Tout donner, rien lâcher jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, on sera toujours fiers d'eux.
Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, ce sera à suivre dès 14h sur la plateforme FIFA+, mais aussi sur beIN Sport 2.
De son côté, l'équipe de France disputait ce matin un match amical contre le Brésil. Les Bleus se sont imposés sans briller, 2-1, but signé Kylian Mbappé et Hugo Ekitike pour la France, et Bremer qui a réduit le score pour le Brésil. Le prochain rendez-vous pour les Bleus de Didier Deschamps, c'est lundi matin, ce sera à 6h face à la Colombie. Du cyclisme avec la suite du Tour de Catalogne, pas de nouvelle victoire pour Dorian Godon. Le Français a été battu au sprint lors de la quatrième étape.
Après avoir remporté la première et la troisième étape, le champion de France termine deuxième de cette étape entre Mataró, près de Barcelone, et Capodron. C'est à quelques kilomètres de la frontière entre l'Espagne et la France. C'est le Britannique Ethan Vernon qui s'est imposé au classement général. Dorian Godon reste en tête. Il possède désormais 13 secondes d'avance sur Tom Pidcock, 14 secondes sur Remco Evenepoel et 14 secondes d'avance, s'il vous plaît, sur Jonas Vingegaard. Au programme ce soir, l'étape reine de ce Tour de Catalogne. Pas moins de 5 cols au programme, dont une arrivée au sommet. Ce sera au col de Pales. Le départ à 21h40.
Allez, un mot de sport sur le territoire avec du padel. On en parlait lundi dernier dans notre Mac des Sports avec nos invités. Les interclubs ont débuté hier soir. L'Olympique recevait Auteuil en ouverture de cette nouvelle compétition de padel. Les Batman de l'Olympique se sont imposés 2-1. Il est très exactement midi, c'est la fin de ce journal. Restez bien avec nous. Dans un instant, c'est Sonia Baquès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, qui est l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.